Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 9 avril 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a réaffirmé le soutien de l'Iran au multilatéralisme. L'Iran promet de fournir une riposte rapide à l'attaque portée au navire Saviz en mer Rouge. La résistance yéménite a ciblé avec succès des hangars d'avions de combat saoudiens à Jizan. La Syrie réclame la levée des mesures coercitives occidentales visant ses citoyens. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. S'adressant à une réunion virtuelle du sommet d'Evite, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que le renforcement du multilatéralisme était l'une des principales priorités de la politique étrangère de Téhéran et a exprimé son soutien aux efforts collectifs des pays en développement pour mettre en place un système économique international équitable. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré à Vienne que la coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, se poursuivait dans les deux domaines de la vérification des faits et de l'assistance technologique. Araghchi s'est entretenu avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael De Grossi, sur le plan d'action conjoint de l'accord sur le nucléaire iranien. Se référant à la réunion fructueuse avec Grossi, il a dit que l'AIEA devait s'acquitter de certaines tâches à temps lorsqu'elle arriverait à la conclusion des négociations. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, soulignant que la production moyenne de Yellow Cake en Iran au cours des 15 dernières années était d'environ 4 tonnes par an, a déclaré l'année dernière, nous sommes passés de la moyenne de 4 tonnes à 37 tonnes et cette année, nous avons pour objectif de produire 40 tonnes. Dans une interview à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire, Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a précisé l'industrie nucléaire iranienne figure au nombre des 5 ou des 6 premiers pays du monde en termes de diversité et de développement. L'Iran produit l'eau lourde de la plus haute qualité au monde. Cette eau lourde, en plus de l'industrie nucléaire, est également utilisée dans d'autres domaines importants, y compris l'industrie pharmaceutique, a-t-il précisé encore. Le ministre tadjik de la Défense a rencontré le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareilly à Téhéran. Le ministre tadjik de la Défense, le général Sherali Mirzo, s'est entretenu jeudi à Téhéran, capitale iranienne, avec le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareilly. Le développement des relations militaires et défensives et dans divers domaines de la recherche, de la formation, de la sécurité était au menu des discussions des deux parties iraniennes et tadjiques. Il a été décidé de créer un groupe de travail conjoint entre les forces armées des deux pays et ce groupe de travail sera chargé de tracer l'avenir des relations militaires et défensives entre les deux pays, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes devant les journalistes. Il a ajouté que la visite de la délégation militaire tadjique en Iran est un prélude au développement des relations militaires et défensives entre les deux pays. L'Iran promet de fournir une riposte rapide à l'attaque portée au navire Savis en mer Rouge. Selon le porte-parole des forces armées iraniennes, la République islamique d'Iran ripostera sans le moindre doute et aussitôt les auteurs identifiés à l'attaque contre l'un de ces navires réalisés en mer Rouge. Nous riposterons sans aucun doute à l'attaque de notre navire Savis en mer Rouge une fois que nous aurons identifié les auteurs, à souligné le général Aboulfazl Shekarchi, porte-parole des forces armées iraniennes, à l'édition arabe de l'agence de presse russe Sputnik. L'Iran décidera de comment réagir une fois de son enquête sur l'incident terminée, a-t-il martelé avant d'ajouter l'Iran soupçonne Israël et les États-Unis d'être derrière l'attaque. Selon ce militaire iranien, les États-Unis sont sans aucun doute impliqués dans toutes les tentatives de porter atteinte à l'Iran. Nous n'accusons aucun des pays du Golfe Persique d'être derrière l'incident du navire Navis en mer Rouge, a-t-il assuré. Et de conclure, les États-Unis et le régime sioniste ont des alliés dans le Golfe Persique et dans toute la région avec lesquels ils coopèrent. Il ne fait aucun doute que les États-Unis sont impliqués dans tous les efforts visant à affaiblir l'Iran et à nuire à ce pays, a-t-il conclu. L'armée de l'air yéménite a ciblé avec succès des hangars d'avions de combat saoudiens dans un aéroport situé dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, alors que les défenseurs du pays appauvri continuent leurs représailles contre la guerre menée par l'Arabie saoudite. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari, a annoncé la contre-attaque aux premières heures du vendredi 9 avril. Le communiqué indique que l'opération a utilisé un drone KSF-2K pour effectuer un coup précis contre la cible spécifiée qui se trouve dans la région de Jizanr à l'intérieur du régime agresseur saoudien. Et cible l'aéroport de Jizanr est une riposte aux frappes aériennes et au siège continu américain nord-saoudien du Yémen, a-t-il souligné. La Syrie a de nouveau réclamé la levée des mesures économiques coercitives et unilatérales imposées par l'Occident à ce pays et a demandé en fait le soutien international à Damas dans ce domaine. Dans un communiqué adressé au président du Conseil de sécurité, lors d'une réunion opinion tenue sur les mesures relatives aux mines. L'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bassam Sapar, a précisé que la guerre terroriste déclenchée contre la Syrie durant ces dernières années avait causé de grandes répercussions sur les différents côtés de la vie des Syriens, de faisant noter qu'en dépit de la libération de vastes des superficies des territoires de la Syrie du terrorisme, le danger menace toujours la vie de ses citoyens à cause de l'existence de mines et de charges explosives abandonnées par les réseaux terroristes dans certaines zones. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran réaffirme son soutien au multilatéralisme, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. S'adressant à une réunion virtuelle du sommet d'Evite, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que le renforcement du multilatéralisme était l'une des principales priorités de la politique étrangère de Téhéran et a exprimé son soutien aux efforts collectifs des pays en développement pour mettre en place un système économique international équitable. Le président Rouhani a prononcé jeudi un discours en ligne lors du 10e sommet d'Evite organisé par vidéoconférence. Le DEVIT est une organisation de coopération au développement entre l'Iran, le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie. Le président Rouhani a souligné, suite à la catastrophe du Covid-19, l'unilatéralisme, le terrorisme économique et la manière dont ils ont été traités font partie des problèmes qui ont suivi les traits de la communauté internationale. Des actions comme celle-ci visent non seulement à aider illégalement des gouvernements de souverains et des nations indépendantes, mais que constituent également une menace sérieuse pour les réalisations de la communauté internationale. De plus, le monde de l'islam est tombé en proie à l'islamophobie organisée. Cette islamophobie organisée a non seulement ciblé les valeurs sublimes de l'islam, mais elle a également entraîné des conséquences économiques et de développement négatif plus large pour les pays musulmans, a souligné encore le président Rouhani. Le renforcement du multilatéralisme est l'une des principales priorités de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Du point de vue du développement économique également, nous avons invariablement soutenu l'effort collectif des pays en développement et harmonisé pour un système économique international juste et non discriminatoire. Le but ultime de tous ces efforts collectifs et légitimes des pays en développement est de parvenir à une croissance économique, un développement équilibré au bien-être public, à la prospérité, à préserver les valeurs et cultures nationales et à garantir un statut de décent dans les relations internationales, a conclu le président iranien Hassan Rouhani. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons en fait nous attarder sur l'échec, la défaite de la stratégie américaine tant en Irak qu'en Syrie.
vous en souvenez, lorsque les Américains voulaient lancer cette guerre contre l'Irak, ils prétendaient que l'objectif en est d'apporter la sécurité pour le peuple irakien. Mais dans l'état actuel des choses, c'est la présence militaire américaine en Irak qui est devenue en fait la principale source d'insécurité et d'instabilité dans le pays. Et le peuple irakien exige fermement le départ des troupes américaines d'Irak. Il y a eu une loi qui a été votée par le Parlement irakien qui exige en fait le retrait, le départ des forces américaines d'Irak. Et ces derniers temps, en fait, les attaques contre des convois militaires américains en Irak se sont multipliées, ce qui est, si vous voulez, un signe évident de ce mécontentement du peuple irakien de la présence militaire américaine sur le territoire irakien. Même chose pour la Syrie. Cette présence militaire américaine en territoire syrien est considérée comme illégale, illégitime, tant au niveau, si vous voulez, des dirigeants du pays qu'au niveau de la population du pays. Les Syriens, si vous voulez, sont contre de cette présence militaire américaine en territoire, si vous voulez, syrien, une présence qui est considérée comme je viens de vous le dire, en fait, comme étant illégale et contraire au droit international, parce que cette présence s'effectue sans l'aval du gouvernement syrien. On va vous en parler avec deux des invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission, depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité, c'est toujours un plaisir.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est une analyste de franco-syrienne qui était en ligne avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Merci de l'invitation. Merci à Monsieur Develet et à vous-même, bien sûr.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Madame Midani, je viens de lancer le sujet de désormais, en fait, de cette politique, cette approche de syrienne et irakienne de Washington est un constat de d'échec. Les événements qui se produisent, en fait, sur le terrain, tant en Irak qu'en Syrie, au niveau des dirigeants, des hommes politiques, et surtout au niveau de la population, des populations de syriennes et irakiennes, le démontre, en fait, d'une manière en fait claire et nette. Madame Midani, non seulement il y a ceux en Irak et en Syrie, ils sont nombreux d'ailleurs, qui disent que voilà, cette politique est désormais un constat d'échec. Des voix s'élèvent désormais, même à l'intérieur des États-Unis, qui disent que voilà, qu'est-ce que nous avons fait, si vous voulez, en Irak, en Syrie, qu'est-ce que cela a rapporté, si vous voulez, aux des Américains, cette présence militaire américaine en Irak, en Syrie, Madame Midani.
En fait, ces agressions militaires répétées des États-Unis contre les peuples de la région n'ont provoqué qu'une profonde haine des États-Unis par les peuples. Ajouté au fait que les crimes qui sont commis, ils sont d'une telle violence et d'une telle arrogance que, en fait, maintenant, ça fait vraiment l'unanimité contre eux. Alors, effectivement, après avoir, alors je voudrais quand même rappeler le vil assassinat du général Qassem Soleimani et du grand scientifique Fakhri Zadeh, et aussi l'ensemble des agressions contre la population syrienne, contre la population irakienne, la collaboration des Américains, des forces américaines avec les terroristes de Daesh, et à chaque fois que Daesh est défait, il les renforce et il leur envoie des renforts en des munitions, des armes, même ils continuent à recruter Donc, il les protège. Il est clair que maintenant, c'est au vu et au su du monde, il les protège. Au vu et au su du monde, aujourd'hui aussi, il pille le pétrole syrien, il pille le grain syrien, en fait, que ce soit du blé, des céréales, même le coton. Ils sont en train de commettre des exactions contre la population par l'intermédiaire de FDS, la Qassad, qu'ils soutiennent et qu'ils renforcent aussi. Ils sont en train de pousser la population de Hasaké à l'exil. Ils ont commis plein d'exactions aussi contre la population irakienne. C'est fait aujourd'hui, la résistance irakienne remporte de très grandes victoires. Et ils ont quand même essayé de tuer le responsable. Ils ont tué le responsable Abu Mahdi al-Mohandes aussi, qui était aux côtés de général Qassem Soleimani, le responsable de la résistance. Tout ceci n'a fait que attiser non seulement la haine, mais aussi la détermination de la population, du peuple syrien, du peuple irakien et de l'ensemble des peuples de la région à vouloir mettre les Américains dehors, d'autant plus que leur collaboration avec les sionistes, l'occupant israélien, elle est évidente, hein, et donc elle est pas seulement évidente, ils n'arrêtent pas de l'affirmer à chaque fois, et c'est un état d'occupation, c'est un état qui est étranger à la région. Il ne sera jamais intégré, en fait, cet état d'occupation israélien, malgré les pressions de Trump pour l'intégrer en faisant des relations avec Bahreïn, avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Arabie Saoudite. C'est pas avec l'État, mais c'est avec juste quelques personnalités du pouvoir de ces endroits, enfin de ces États, et qui sont quand même aussi complètement désapprouvés par les populations, par les peuples. Aujourd'hui, je peux dire aussi, en Syrie, aussi la collaboration américaine et avec Erdogan, qui est en train aussi d'occuper et de piller les richesses de la Syrie, qui est en train même de piller les richesses archéologiques, qui est en train de turquiser les différents villages et turquiser, c'est-à-dire ils imposent la langue turque pour travailler, ils imposent la langue turque dans les écoles, ils imposent la monnaie turque, ils imposent les radios turques, etc. Tout ceci ne fait que augmenter la colère du peuple syrien, ajouté aussi à l'embargo étouffant, au blocus étouffant qui aujourd'hui affame le peuple syrien et le fait mourir de froid. Tout ceci fait monter effectivement non seulement la tension, fait monter la haine contre l'Américain, contre l'occupant turc dans la région, et donc par conséquent la résistance populaire augmente avec aussi et se range du côté de l'armée syrienne pour défendre le pays et pour pousser tous ces occupants non seulement illégitimes qui agressent la souveraineté de la Syrie, qui agressent le peuple syrien, qui agressent les richesses de la Syrie et qui la pillent dehors. Donc en fait aujourd'hui le maître mot c'est Yankee Goro.
Merci. J'ai beaucoup de maîtres de voler. Madame Midani estime que l'assassinat du commandant de la de résistance, le général martyr Soleimani et d'Abu Mahdi Mohandes, chef adjoint de Hashd al-Shaabi, des unités de la mobilisation populaire d'Irak, également les crimes commis par les troupes américaines contre, si vous voulez, les Irakiens et les Syriens, n'ont-ils d'autres résultats que d'attiser la résistance anti-occupation, d'attiser la haine, comme pour reprendre l'expression de Mme Midani, la haine contre les États-Unis, contre les occupants américains, la haine des Irakiens et des Syriens contre les occupants américains. Est-ce que vous partagez cette analyse, maître de Volley?
Oui, absolument. D'autant plus que, comme vous le savez, même si la perte de ces deux commandants a été ressentie de manière traumatisante, il faut savoir que structurellement, et à l'instar de ce qui pouvait avoir lieu à l'époque de l'Empire perse, quand un commandant tombe, il y en a 10 000 derrière qui se lèvent. C'est pour vous dire que c'est l'esprit de la résistance qui prédomine dans la région. Et les gens sont maintenant mobilisés plus que jamais à expulser les Américains et leurs affiliés de la région. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'autre côté, ils sont dans une fuite en avant, que d'ailleurs l'ancien envoyé spécial Jim Jeffrey a lui-même, si je peux dire, dévoilé ces derniers jours, puisque il a lui-même déclaré que le chef de Al-Nosra, Al-Jolani, devait faire l'objet d'une réhabilitation et qu'en fait, ils avaient collaboré avec Al-Qaïda depuis des années. Donc maintenant, le secret polichinel est complètement exposé. Pour ce qui concerne la présence américaine illégale dans le nord-est de la Syrie, cela correspond à cette doctrine Jeffrey qui consiste à, entre autres choses, créer un état de bourbier pour la Russie, maintenir ce qui s'apparente à un siège médiéval sur la Syrie et financer les opérations de déstabilisation au travers de la réactivation des cellules terroristes en pillant effectivement le pétrole qui, dont on sait, n'est pas en soi quelque chose que les Américains font un profit, mais qui leur permet de financer leurs opérations au travers d'un trafic qui passe par le Kurdistan irakien et qui finit en Turquie. Donc tout ça sous couvert bien sûr d'une société américaine écran qui est elle-même qui a été montée par des anciens mercenaires des forces spéciales américaines et des affiliés de l'ancienne administration Bush. Cela malheureusement pour eux ne va pas stratégiquement mener où que ce soit, puisque plus que jamais maintenant dans le Al Jazeera syrien, les tribus se mobilisent, sont en train de se former au mode de résistance, de façon à créer une espèce de guerre asymétrique, de harcèlement, puisque le droit international, de toute façon, leur donne le droit de défendre leur pays et de libérer leur zone. Et dans ce contexte-là, il est actuellement mis en place des protocoles, non seulement au niveau des tribus, mais aussi au niveau des forces associées, alliées à l'armée syrienne, pour probablement commencer à pilonner maintenant les Américains, puisque de toute façon, ce pillage systématique, c'est pratiquement quotidien maintenant. On a des dizaines de camions américains qui quittent remplis de pétrole, remplis de blé. C'est une situation inacceptable, intenable, et qui appelle une résistance renforcée. Pour ce qui est de la situation en Irak, vous l'avez souligné en ouverture, le Parlement irakien, suite d'ailleurs à l'assassinat de Soleimani et Al-Mohandes, a passé cette loi demandant le départ le plus rapide possible, immédiat dans l'absolu des Américains. Le problème, c'est qu'en 30 ans, il y a eu un changement au niveau du poste de Premier ministre en Irak et il est à se demander si l'occupant du bureau du Premier ministre actuel n'est pas en décalage total avec la volonté populaire de voir les Américains partir. Les Américains, eux, le sentent bien. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi on a eu cet accord en Jordanie récemment signé le 16 mars dernier, alors même que le Parlement jordanien n'a pas été consulté, qui consisterait pour les Américains à pouvoir disposer de toutes les manœuvres possibles au niveau de l'accumulation de leurs forces dans ce pays, alors même que encore une fois, les intérêts du peuple jordanien ne sont pas du tout servis par cette situation. Donc, les Américains essayent de changer, d'ajuster, si je puis dire, leur positionnement tactique. Mais tous les peuples de la région maintenant chantent d'une seule voix, qui est celle d'expulser les Américains et leurs alliés et de mettre un terme, une fois pour toutes, à toute opération de déstabilisation. Et le camp travaille en la faveur de la résistance et de ses alliés.
Madame Midani, de mettre de volée, d'insister sur ce point que voilà, tous les peuples de la région exigent désormais, si vous voulez, le départ des forces américaines, exigent la fin de la présence militaire américaine dans la région. Autrement dit, maître de volée, en fait, insiste sur cette prise de conscience au niveau des populations. Vous en souvenez, lorsque les Américains voulaient agresser l'Irak, ils disaient que voilà, ils imaginaient qu'ils seraient accueillis, si vous voulez, à Bagdad, capitale irakienne, comme les sauveurs, comme les libérateurs. Même chose pour la Syrie également, mais maître de volée, en fait, souligne ce point qui est en fait solide de cette prise de conscience, si vous voulez, au niveau des populations. Madame Midani, ça aussi, c'est un élément important, n'est-ce pas?
C'est un élément crucial, effectivement. La résistance populaire grandit et il y a de plus en plus de d'opérations contre les soldats américains et contre ceux qui collaborent avec les Américains, qui sont les Qassad, en fait. Il y a tous les jours des attentats contre eux. Il y a tous les jours des attaques, mais aussi parce qu'ils ont attaqué systématiquement la population et dans sa chair et dans ses biens et dans ses... Donc les gens commencent à résister. Ça, c'est un point qui est très important. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi que la population, le peuple syrien, le peuple irakien, sont des peuples comme le peuple libanais, le peuple palestinien et yéménite, sont des peuples qui ne plient pas et qui ne déclarent pas forfait, même face aux agresseurs les plus horribles. Et en fait, les Américains sont effectivement des agresseurs horribles, de la même manière que les Israéliens. Mais donc, ils ne baissent pas les bras. Et au contraire, maintenant, ils doublent de détermination. Et ils doublent aussi de courage. Et en fait, ils sont de plus en plus victorieux. Et de plus en plus, ils opèrent de plus en plus des actions victorieuse contre pas seulement les Américains d'ailleurs et tous leurs alliés dans la région qui sont aussi je voudrais citer aussi les États de l'OTAN, parce qu'il y a aussi une présence française, une présence allemande, une présence anglaise dans la région. Donc aussi ils sont sous le couvert et sous le vocable les alliés américains ou la coalition dirigée par les Américains. Donc en fait, tous ceux-là sont des occupants, sont des colonialistes anciens ou nouveaux, et ils ont été toujours, ils sont toujours en train de convoiter les richesses des pays autres que les leurs, parce que pour les piller. Et donc ça, c'est la prise de conscience du peuple syrien. Et irakien, en fait, après ces 10 années de guerre, voire pour l'Irak, ces 30 années de guerre, ils sont déterminés à mettre tous les Américains dehors. Je voudrais dire aussi que ça a été une grande décision de l'ensemble des pays du front de la résistance. C'était la bataille de cette année vise à mettre effectivement l'ensemble des forces américaines hors de la région de l'ouest de l'Asie. Donc de toute cette région, les Américains et leurs alliés doivent être mis dehors, leurs alliés occidentaux, agresseurs, etc. Donc ça, c'est effectivement nous continuons à résister, nous continuons à nous battre sur tous les plans, mais aussi bien sur le plan militaire, mais aussi beaucoup sur le plan politique. Il faut aussi savoir que les Américains sont très isolés mondialement aujourd'hui, parce que ils sont en train de de partout ils sont haïs. Ça c'est aussi un point très important, sachant qu'on a aussi des alliés importants comme l'Iran, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, et bien sûr. La Russie agit avec nous aussi en Syrie contre tout ce qui est illégitime et contre
Merci
tout
beaucoup.
Ce qui est illégal.
Merci beaucoup, Maître de Volley. Une dernière question. Nous avons 2-3 minutes devant nous. Et selon Mme Emidani, c'est en fait la présence militaire de l'OTAN dans la région qui est remise en cause. En fait, l'exigence est celle de réclamer le départ non seulement des Américains, mais également de l'OTAN de la région, Maître de Volley.
Oui, absolument. D'autant plus que l'OTAN n'aurait normalement jamais dû persister après la chute du mur de Berlin. La raison d'être de l'organisation militaire nord-atlantique étant à l'époque justifiée pour protéger l'Europe occidentale des chars soviétiques. Donc cette organisation aurait dû disparaître en même temps que, à la limite, le 25 décembre 1991, lorsque le secrétaire général Gorbatchev avait prononcé la dissolution de l'Empire soviétique. Or, il n'en a rien été. Dès 1992, il y a eu un white paper qui a été publié, qui a laissé ouvert la mission otanesque de manière diffuse et floue, de façon à pouvoir ensuite l'utiliser comme un instrument pour s'ingérer dans les régions du monde, ici et là, au gré des intérêts occidentaux bien compris. Nous arrivons maintenant à une situation terminale où les États-Unis utilisent l'OTAN et donc, ce faisant, entraînent les membres entiers de l'organisation dans des missions complètement farfelues et qui ne répondent à rien aux intérêts des peuples de l'Occident, avec le risque, malheureusement, d'une escalade, puisque récemment, l'OTAN vient d'annoncer que le simple fait d'une attaque cybernétique pourrait constituer une invocation, un motif nécessaire pour l'invocation du fameux article 5 qui permet à un membre de l'Alliance de pouvoir compter sur tous les autres.
Merci.
Mais cette opération est très, très dangereuse et on le voit d'ailleurs en ce moment aussi en mer Noire et en Ukraine orientale.
Merci infiniment, Maître Arnaud de Volley, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui a été avec moi pour cette émission depuis Paris. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
En pleine tension entre la Russie et l'OTAN au sujet de la dégradation de la situation en Ukraine, le ministre russe de la Défense a ordonné l'organisation d'un exercice militaire. Selon le site web du ministère russe de la Défense, Sergueï Choïgo a ordonné ce mardi 6 avril le lancement d'un exercice militaire qui se déroulera jusqu'à la fin d'avril. Comment analyser ces récentes tensions à la frontière russo-ukrainienne et à qui profite la tension? Écoutons à ce sujet l'analyse de Mikhail Gamandiegrov, analyste chroniqueur à l'agence Observatoire Continental.
Oui, alors ce que j'aimerais dire en commençant, c'est que c'est quand même assez paradoxal d'appeler un pays agresseur, en l'occurrence dans le cas ukrainien, qui appelle la Russie comme étant le pays ennemi, le pays agresseur, tout en insistant sur la nécessité que la Russie continue à faire transiter le gaz russe, par le territoire ukrainien, parce que pour maintenir à flot l'économie ukrainienne. Donc c'est assez paradoxal quand on considère un pays officiellement comme étant un ennemi, un agresseur avec lequel on veut couper tous les pans, mais parallèlement on réalise un lobbying énorme en faisant du lobbying auprès des alliés occidentaux de Kiev pour que justement le gazoduc Nord Stream 2 ne soit pas finalisé, pour que le gaz russe continue de transiter par le territoire ukrainien. C'est assez paradoxal et je dirais même que c'est assez comique, mais il faut le reconnaître que c'est propre à l'establishment ukrainien depuis le putsch, depuis le coup d'état du Maïdan, depuis 2014. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, concernant à qui profitent ces tensions, bon, on sait très bien à qui ça profite à Washington. Disons que Washington n'arrive toujours pas à digérer le fait d'avoir pas pu réaliser le scénario tel qu'ils l'ont souhaité au départ pour l'Ukraine, parce que leur but c'était de créer une base navale en Crimée. Non seulement ils n'ont pas réussi à faire ça, mais la Crimée, depuis déjà maintenant 7 ans, fait partie intégrale de la Russie, de la Fédération de Russie, et tout le monde sait parfaitement qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Les habitants de Crimée ont fait leur choix légitime. Ils ont soutenu ce choix à l'écrasante majorité durant un référendum qui a laissé justement exprimer cette volonté populaire. Et aujourd'hui, l'écrasante majorité du peuple multiethnique de Crimée, pas seulement les Russes, mais aussi bien les Ukrainiens, les Tatars de Crimée, les Grecs et d'autres peuples qui habitent sur cette péninsule, aujourd'hui ne regrettent pas leur choix. Et d'après les nombreux sondages qui ont été réalisés, ils disent qu'ils, s'il fallait le refaire, ils le referaient sans aucune hésitation. Donc, et bien sûr, il y a aussi le Donbass. Donc évidemment, le Donbass aussi, c'est comme un os dans la gorge pour Washington et Kiev, et l'OTAN de façon générale, qui est aussi impliquée, parce que voilà, là aussi, c'est un territoire qui était le poumon industriel et économique de l'État ukrainien avant le putsch du Maïdan, et aujourd'hui, ce territoire leur échappe, et la résistance ne baisse pas, et donc évidemment, on crée ces tensions, on menace, et puis on teste aussi, et c'est aussi une façon de tester aussi bien les républiques populaires de Lugansk que de Donetsk, et c'est aussi bien sûr une tentative de tester la Russie. Mais en tout cas, encore une fois, comme ça a été dit par les hauts responsables russes, si les élites occidentales souhaitent définitivement détruire l'État ukrainien, parce qu'ils l'ont déjà globalement détruit, vu le marasme économique et politique dans lequel vit cet État depuis 2014, depuis justement le coup d'État du Maïdan, donc s'ils veulent tout simplement officiellement et définitivement anéantir ce qu'il reste de l'Ukraine, donc qu'ils assument les conséquences. Mais en tout cas, la Russie est prête à toutes les provocations. Et les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk sont également prêtes à faire face à toute agression et même à passer à la contre-offensive. J'en suis certain.
Préparatif d'une guerre mondiale à l'horizon 2030-2039, le coup d'épée dans l'eau. Le scénario le plus dangereux anticipé par Zbigniew Brzezinski en 1997 était la formation d'une coalition potentielle formée par la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et éventuellement la République islamique d'Iran, moins par rapprochement idéologique que sur la base d'une perception commune de la menace hégémonique existentielle que fait poser l'unilatéralisme américain aux intérêts et à l'existence même de ces puissances. Cette coalition anti-hégémonique anticipée ne pouvait prendre forme durant les années 90. Elle évoquait pour les théoriciens américains quelques réminiscences avec le bloc URSS-Chine en 1950, fondé essentiellement sur l'hostilité commune à l'égard des États-Unis avant la rupture de 1965. autre point anticipé pour les théoriciens américains, une nouvelle alliance sino-russe prendra une forme non conventionnelle et de ce fait ne ressemblera ni à un axe et encore moins à une coalition ou une alliance telle que le conçoivent les stratèges occidentaux. C'est la marque de la subtilité chinoise telle qu'elle vient de se concrétiser à travers la signature d'un accord stratégique avec l'Iran ou le rapprochement continu des complexes militaro-industriels russes et chinois. Un arc trilatéral non conventionnel s'est mis en place entre Beijing, Moscou et Téhéran, plus sous la contrainte créée par l'émergence d'une menace commune matérialisée par l'évolution de la guerre hybride 3.0 et l'hégémonie des géants du net sur la militarisation d'un réseau Internet possédé par les États-Unis. En parallèle, l'acculturation, accélérée par les processus de l'influence culturelle des médias américains et plus particulièrement via les séries et la musique considérées comme des outils de combat par la documentation du Pentagone, a facilité l'émergence de minorités dites « non visibles » en Russie, en Chine et en Iran, remettant en cause les valeurs traditionnelles orthodoxes et islamiques pour la Russie et l'Iran, ainsi que les principes confucéens en Chine. Cependant, c'est la guerre financière, économique et monétaire qui a le plus d'impact sur la perception de la menace existentielle que fait poser la politique hégémonique de Washington sur ces trois puissances. La Chine est la seule puissance capable de redessiner le système monétaire international et mettre fin à l'hégémonie du dollar américain. Cette capacité n'est pas sans risque pour la cohésion interne de la Chine où son économie fortement intégrée est dépendante du système monétaire international. En réalité, les Chinois ont très bien compris les mécanismes et les règles du jeu et y ont adhéré pour transformer ce qui leur paraissait comme des contraintes insurmontables en opportunités de réussite dans la plus pure approche chinoise, excluant l'action et privilégiant l'opportunité ou le contexte. Cette approche délibérément ambiguë, floue, multiforme et pragmatique a transformé la Chine d'un pays émergent, pauvre, en une superpuissance mondiale déployant à travers le monde entier sa propre initiative économique que l'on surnomme « Nouvelle route de la soie ». Ce déploiement impressionnant s'accompagne de lourds investissements en matière d'infrastructures de base dans les zones adhérent à l'ère de prospérité chinoise. L'un des objectifs des guerres d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie est le blocage de l'expansion des initiatives économiques chinoises en Asie centrale, au Moyen-Orient et au Levant, et donc en Méditerranée orientale. Ce qui a conduit la Chine à les contourner par le Pakistan, la République d'Asie centrale musulmane, la Turquie et une OPA sur certaines infrastructures en Grèce. La réaction adverse a focalisé sur la création d'un foyer de tension au Xinjiang basé sur la thématique d'une répression contre la minorité musulmane d'ethnie ouïghour, un rapprochement avec l'Inde et l'exacerbation du sentiment sinophobe au sein de certains milieux indiens sur la base de la rivalité historique avec le Pakistan et un vieux contentieux frontalier avec la Chine. C'était le plan B de l'endiguement et de l'encerclement de la Chine. Le plan A étant le maintien de la tension en Asie du Nord-Est, en particulier en péninsule coréenne, et le maintien du Japon dans une posture hostile ou du moins alliée aux efforts de guerre hybride américaine contre Beijing, même si Tokyo joue un jeu infiniment plus subtil en utilisant la menace nord-coréenne pour s'affranchir de certaines restrictions contenues dans sa constitution de 1946 et se réarmer sans éveiller la suspicion des États-Unis. Cette partie du plan A est bloquée par la nucléarisation avancée de la Corée du Nord et son acquisition de vecteurs balistiques de plus en plus performants et efficaces. La partie ouverte du plan A est en mer de Chine méridionale. La question de Taïwan et Hong Kong, une ligne rouge pour Beijing. À cet égard, les multiples tentatives de créer un noyau de coalition régionale anti-chinoise ayant échoué, il ne restait que la guerre hybride avec des tentatives de révolution colorée à Hong Kong, contrées par une plus grande influence chinoise en Thaïlande, au Myanmar, au Bangladesh, au Laos et au Cambodge. Or, le monde a profondément changé depuis les années 90. La nouvelle guerre froide 2.0, voulue par les bellicistes de l'Empire avec l'échéance 2030-2039 pour une guerre mondiale chaude, risque de leur réserver de très mauvaises surprises. Le rapport de force mondiale s'est déplacé vers l'Est tandis que l'Afrique demeure le continent d'avenir. Les résidus des idéologies passéistes du 19e siècle et du début du 20e siècle tentent un nouveau carnage comme ceux des deux guerres mondiales précédentes, mais comme le Titanic, l'Empire est en train de couler corps et âme dans l'abysse d'un déclin. Comme l'a dit le leader de la révolution islamique d'Iran dans l'un de ses récents discours, le monde post-empire américain a commencé. Il faut bien s'y préparer.